Mon thème ce soir, je veux vous partager autour d'un personnage biblique qui est un peu oublié. Et dans la vie de ce personnage, il y a des événements pénibles, douloureux, qui peuvent correspondre à ce que les uns et les autres on a pu vivre. Puis on va voir, on va pas en rester là, parce que quelque part, si on voit juste des événements marquants et des drames, on repart de ce lieu découragé et autre chose, plus qu'autre chose. Mais on va voir comment le Seigneur Dieu a pu rencontrer cette personne et lui accorder un réconfort qui était à sa mesure, selon ce que Dieu voulait pour elle et selon ce que cette personne aussi avait comme attente. Cette femme s'appelle Léa, elle est la première femme de Jacob. Donc on est dans le livre de la Genèse, aux origines du peuple d'Israël. C'était même avant que le peuple d'Israël existe en tant que population. On est aux origines. Puis on appellerait ça aujourd'hui l'Antiquité, mais ce mot fait tout de suite très ancien, et puis on en oublie qu'il y a des personnes humaines. Mais il y a une personne humaine qui est là, donc Léa, dont le nom signifie lionne. Et elle n'a pas du tout l'air d'une lionne. Léa, la lionne, est vraiment comme un fauve tapis dans son coin et qui, quelque part, n'existe pas. On dirait presque aujourd'hui, avec mépris, c'est une personne transparente. On va voir ce texte, ce que la Bible nous en dit, et donc comment Dieu a pu rencontrer cette personne. Et Dieu, je te bénis pour ta parole. Fais qu'elle puisse parler à notre cœur, à chacune et à chacun. Je prie, Seigneur, que ton Saint-Esprit atteste dans les cœurs ce qu'il doit attester, certifier, et qui vient de toi, Seigneur. Amen. Donc Léa, c'est la première femme, première épouse de Jacob. Les trois patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, ont tous les trois une histoire particulière, très forte, avec Dieu. À ce moment-là, il n'y a pas de Bible. Moïse est juste dans la pensée de Dieu. Il viendra loin après. Donc on est loin avant la loi de Moïse. Si vous dites à Jacob, « Jacob, tu connais la loi du talion et les dix commandements ?» Il dit, « C'est à moi que tu parles, qu'est-ce que c'est que ça ?» Donc il n'y a pas de loi. Ils ont juste la découverte qu'ils ont de Dieu par révélation que Dieu a pu donner. Et le reste, c'est le bouche à oreille, c'est la tradition orale qui est tout à fait parole de Dieu et valable, mais il n'y a que ça. Donc imaginez-vous dans une région où la plupart des gens ont un dieu ou des dieux domestiques, on appelle ça comme ça à l'époque, les dieux à la maison, il y a des petites statues, il y a peut-être des temples divers, je ne sais même pas jusqu'où c'est développé, mais voilà. Du reste, le père de Léa, il a des dieux domestiques à la maison, on le voit dans le texte de Genèse 30, et il reproche à ses filles d'avoir volé ces dieux domestiques, donc ça lui tenait vraiment à cœur. Il est dans cet état d'esprit-là. Mais le vrai Dieu, il s'est révélé à peu de personnes. Noé avait une révélation, bien sûr, avant encore Adam et Ève, mais Noé, puis quelques personnes. Donc on est vraiment dans une pauvreté spirituelle qui est là. Mais Dieu se révèle petit à petit, et on dit que dans les Écritures, il y a une progression dans la révélation. Ça veut dire qu'à l'époque de Léa, eh bien, on connaît un petit peu de Dieu, de ce qu'il a pu se révéler. Nous, on a toute la révélation de Jésus-Christ, on a la connaissance de la croix, de le ministère, mais avant ça, il y a très peu de choses. Voilà, juste ça, c'est le contexte. Léa, première femme de Jacob, personnage un peu oublié. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des messages, peut-être, par rapport à Léa, mais c'est un peu un personnage biblique oublié. Mais elle n'est pas oubliée de Dieu. Une femme qui rencontre Dieu dans des moments douloureux de son existence. Un Dieu qui est personnel, et je n'ai pas dit domestique, on fait la différence, mais un Dieu qui est personnel et un Dieu qui s'intéresse à elle. Et il y a peut-être déjà quelque chose à prendre pour ce soir, pour les uns et les autres, un Dieu qui s'intéresse à nous, dans le plein sens du terme. Il a un intérêt personnel pour toi et pour moi. Alors je vous propose ce soir qu'on étudie un petit bout de la vie de Léa et de voir comment Dieu, qui n'est pas indifférent à ses souffrances, a pu la rencontrer. Mettez en parallèle, si vous le souhaitez, dans votre vie, les moments difficiles ou délicats que vous avez pu vivre jusqu'à ce jour. Et je ne peux pas m'identifier à ce que vous avez vécu, mais Dieu le peut. Et dans ce personnage, on peut faire ressortir, ou il peut faire ressortir, Dieu, des choses qui vous correspondent. Ce qu'on va voir, c'est que Léa, elle expérimente non seulement le fait que Dieu s'intéresse à elle, alors qu'elle est une femme oubliée, qui s'intéresse personnellement à elle, et la première chose qu'il va faire, c'est lui montrer son amour. Et il lui montre à Léa l'amour, l'amour, avec un grand A. Parce que cet amour, elle ne le connaît pas, ou trop peu. Elle a un père qui la traite comme une étrangère, Laban. Elle a un mari qui ne voulait pas d'elle, donc voilà, qui l'ignore, qui la méprise. Et puis, dans sa beauté, elle n'a pas grand-chose pour elle. L'homme regarde à l'apparence. Les hommes, les êtres humains, regardent à l'apparence. Ah, celle-ci, elle est bien. Ah, ben dis donc, celle-là, waouh, quelle star, etc. Mais elle n'a rien pour elle, ou pas grand-chose pour elle. Le verset clé que je prends ce soir, sur lequel je m'appuie, Genèse 29, 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Dieu a son regard sur les personnes qui, entre guillemets, n'ont rien pour elle. Il lui a permis d'avoir des enfants, tandis que Rachel, sa sœur cadette, était stérile. Alors le verset, il faut bien le comprendre. Première chose, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. La lionne, celle qui avait un destin particulier, qui devait avoir un destin particulier, elle commence mal ou elle vit des épisodes douloureux de sa vie. Quels sont-ils ces épisodes ? Alors c'est un petit peu, on pioche comme ça dans ce texte, les chapitres 29, 30, 31 de la vie de Léa, parce qu'il y a des versets qui nous montrent cette personne mal aimée. Pour les plus anciens parmi nous, vous rappelez la chanson de Claude François, « Je suis le mal aimé ». Bon, c'est moi qui suis le plus vieux, peut-être qui me rappelle seulement cette chanson. Claude François, la star des années disco, 50, 60, etc. Bref, je suis le mal-aimé. Léa aurait pu chanter cette chanson avec lui, mais c'était une autre époque. Alors, Léa, on ne la présente pas. Quand le troupeau de Laban vient vers Jacob, vous pourrez lire les textes, Genèse 29 et 30, eh bien, les bergers disent, ah ben voilà, ça c'est le troupeau de Laban, ah ben il y a Rachel qui est là. Rachel arrive, sa fille. Il dit c'est sa fille. Pourtant Laban on a vu dire mais t'as deux filles, les bergers, il y a deux filles quand même. Non, c'est Rachel qui prend tout le gâteau. C'est Rachel. Ils n'ont Dieu que pour elle. Verset 6 de chapitre 29 de Genèse. Ils répondirent dans les bergers, oui, Laban est en bonne santé et voici sa fille, Rachel. Là, Léa, elle n'est pas là, absente, on ne sait pas. Rachel, elle est belle, physiquement parlant. C'est une Kardashian de nos jours. On dit de ces personnes-là, vous lui mettez n'importe quel habit sur le dos, ça lui va bien. Un rien l'habille, il y a cette expression en français. Rachel, un rien l'habillait. Mais Léa, rien ne la mettait en valeur. Dans Genèse 29, verset 17, un verset un peu mystérieux. Léa avait les yeux fragiles. Dans certaines versions, vous avez les yeux doux ou délicats. En fait, ce verset, il fait gratter la tête des traducteurs. Parce qu'il y a plusieurs traductions possibles. Ça va de Léa qui a les yeux doux et délicats. On pourrait penser qu'elle a des yeux magnifiques, qu'elle est attirante par son regard. Il y a des personnes comme ça qui ont un regard magnifique. Mais aussi, on peut traduire par regard vide. Moi, je penserais plutôt de ce côté-là, parce que j'ai l'impression que Léa, la personne invisible, qu'on ne voit jamais, qu'on ne remarque pas, elle est dans l'amertume, la mal-aimée. Elle souffre, et le regard, bien sûr, traduit cette souffrance qui est là. Léa avait les yeux fragiles, le regard vide, tandis que Rachel était belle à tout point de vue. Il y a un contraste dans le texte biblique. On passe vite sur Léa, où les gens, voilà, on l'ignore. Elle est celle qui on mettait de côté. Et Rachel, la cadette, elle a tout. Et elle en joue, certainement. Elle en séduit d'autres, des personnes avec cela. Son père, Laban, la considère comme marchandise. la considère comme marchandise. Alors ça, c'est pénible à lire, je trouve, mais c'est comme ça. La Bible ne commente pas ce qui s'est vécu, mais elle dit les faits tels quels. Lorsque les noces sont prévues entre Jacob et Rachel, Jacob aimait Rachel, eh bien, ce que fait le père en douce, mais quel épisode douloureux, le soir, verset 23 du chapitre 29, Laban prend sa fille Léa et il l'amène vers Jacob. Donc en douce, il profite de la pénombre. Au lieu d'amener Rachel dans la tente de Jacob, comme ça pouvait se faire, il amène Léa. Quel sentiment avait dû avoir Léa ? Marchandise. Voilà le message indirect de Laban, son père. Tu es une marchandise. Alors il se justifie après par des coutumes, etc. Mais n'empêche, peut-être ça se faisait comme ça à l'époque, qu'on ne mariait pas la cadette avant l'aînée, le texte biblique le dit. Mais quand même, est-ce que c'est le cœur de Dieu ? Évidemment pas. Dieu nous aime tous et il ne nous traite pas en marchandises. Au verset 27, je continue parce qu'il y a d'autres épisodes pour Léa qui sont douloureux. Son père l'appelle celle-ci. Il dit pas c'est ma fille Léa, il dit celle-ci. Verset 27, il dit à Jacob, termine la semaine avec celle-ci. Quel mépris, hein ? Quel mépris. Alors, à l'époque, il y avait certainement une différence entre l'homme et la femme dans la culture, hein. Mais encore une fois, pas dans le regard de Dieu, pas dans la pensée de Dieu. Il l'appelle celle-ci. Et puis, comble, évidemment, dans ce mariage qu'elle fait avec Jacob, c'est un mariage qui est contre son gré, en tout cas, elle n'adhère pas au début, en tout cas, eh bien, son mari ne lui montre pas d'affection. Au verset 30, Jacob s'unit à Rachel, la sœur, hein, après, qu'il préfère même à Léa. Donc c'était affirmé, Jacob, il n'est pas du tout dans la sensibilité de ses épouses, à l'époque, donc il y a la polygamie, je vous en parle encore un petit peu après. Mais voilà, Jacob préfère Léa, point. Préférence. On sait les dégâts, le contraire. Pardon, merci de me corriger. On sait les dégâts que ça peut faire quand des parents font des préférences ouvertement à leurs enfants. Ah, celui-ci, c'est mon fils, etc. Et puis, ce n'est pas forcément l'apanage des anciennes générations, hein, pas du tout. Mais aujourd'hui, ça se voit, malgré qu'il y ait une connaissance peut-être psychologique plus profonde, mais n'empêche que ça existe encore. Et on sait les dégâts que ça peut faire. Alors, les trois problèmes que nous posent ces textes, je voulais l'aborder courtement. Ce texte parle dans l'Ancien Testament de la pratique de la polygamie, dans notre Ancien Testament, la polygamie. Ce texte aussi parle d'une Léa et d'une Rachel qui vont être, entre guillemets, faire une forme de gestation pour autrui. Elles prêtent leur servante à Jacob, ces servantes deviennent enceintes de Jacob et elles adoptent les fils qui naissent de ces unions. Vous suivez, hein ? Donc, polygamie existante. Une forme de gestation pour autrui, c'est pas... On comprend les termes d'aujourd'hui, mais c'est pas tout à fait la même chose quand même dans le texte biblique. Mais je fais un peu le raccourci. Et puis, les textes nous parlent de Dieu domestique que Laban adorait et auquel il tenait. Quand la Bible parle de ces faits-là, elle en dit justement que c'est des faits. Elle ne condamne pas, elle ne juge pas. Mais elle décrit les faits. Et ça ne veut pas dire que Dieu est d'accord. Certains, j'ai pu l'entendre, ont dit « Ah, mais dans la Bible, il y a la polygamie. » Oui, mais ce n'est pas parce que ça existe que Dieu est d'accord. Dans la Bible, le diable parle aussi. Parce qu'il parle que Dieu est d'accord avec ça. Oui, mais c'est la parole de Dieu. Oui, la Bible est parole de Dieu dans l'ensemble. Mais ça ne veut pas dire que Dieu il est d'accord avec les faits qui sont décrits là. Le modèle, c'est celui des origines, Adam et Ève, hein, l'homme quittera son père et sa mère, etc. Mais ces faits sont là, et ça fait partie de l'histoire biblique. Donc ne prenons pas... c'est comme si... prenons un exemple d'aujourd'hui qui serait peut-être plus avec nous, parlant. C'est pas parce que tu es béni, Dieu te bénit dans une guérison, dans une action particulière, miraculeuse de sa part, qu'il est d'accord avec tout ce que tu fais. Dieu m'a guéri, c'est bon, j'ai aucun péché dans ma vie. Ça ne veut pas dire ça, ça veut juste dire que Dieu il t'aime. Enfin juste, vous enlevez le juste si vous voulez. Et Dieu il t'aime tellement qu'il te fait du bien et il te guérit. Ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec tout ce que tu fais, tous les choix que tu vas faire. Mais ça veut dire qu'il a un Dieu bon et qu'il se soucie de nous et qu'il se préoccupe de nous. Et ça, c'est la grande grâce de Dieu. Il n'attend pas que tu sois parfait pour bénir, sinon il n'aurait béni personne, et en tout cas pas moi. Mais il nous fait grâce. Il vient devant de nous avec des grandes bénédictions. Voilà l'histoire, quelques épisodes de la vie de Léa. Sa douleur, on imagine sa peine intérieure. Et peut-être ce soir, il y en a qui sont dans une peine. Dieu vous a béni par différents moyens, mais il y a encore quelque chose de douloureux, de pénible qui est là. Et j'ai remarqué qu'au cours de l'existence, les choses peuvent remonter à la surface alors qu'on avait pu les amener au Seigneur Jésus à une époque. Et puis les souvenirs en reviennent avec une peine ou une douleur. C'était cicatrisé, en tout cas, du moins on le pensait dans nos âmes. Mais la douleur est encore là, la peine est encore là. Le mariage, Léa souffre dans son mariage. Elle se confie néanmoins en Dieu, mais elle souffre dans son mariage. Rachel, elle a ses souffrances aussi, mais d'autres dans d'autres domaines. Léa va prouver son attachement à Dieu. Alors qu'elle est de ce contexte idolâtre, elle est, alors que dans sa famille elle est mal aimée, dans son couple ça ne va pas idéalement, eh bien elle se confie et elle montre son attachement à Dieu. Elle apprend à connaître Dieu. Alors ce verset 37, le verset clé tout à l'heure que j'ai lu, 31 du chapitre 29, « L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. » Eh bien, on en déduit que Dieu va lui montrer son amour et il va la combler. L'amour de Dieu a comblé Léa. Et en fait, la Bible nous montre que Dieu lui permet d'avoir des enfants. Mais on peut comprendre ce verset pas dans le sens, ben voilà, tu verras tes enfants, ils vont te combler d'affection. On pourrait le comprendre comme ça. Mais je crois, en lisant bien le texte, il me semble que il y a comme des temps particuliers dans les grossesses et les naissances de Léa qui font que Dieu va se révéler comme le Dieu d'amour. Peut-être qu'elle n'était pas astreinte aux tâches domestiques comme les autres, ou je ne sais pas exactement, mais elle prend soin de sa relation avec Dieu, elle prend ce temps à part de grossesse où elle se confie en Dieu et Dieu se révèle à elle. Et lorsqu'il y a naissance d'enfant, à chaque fois c'est comme un cri de soulagement ou de louange ou un chant de reconnaissance à Dieu. Et puis elle est tellement dans la reconnaissance qu'elle nomme son fils ou ses fils et sa fille liés aux circonstances et à la révélation qu'elle a de Dieu. Je ne sais pas, ceux qui ont des enfants, comment vous avez nommé vos enfants. Et là, il y a une pratique particulière, c'est elle qui nomme l'enfant. C'est elle qui dit pour Ruben, eh bien, pour Ruben, donc son fils, son premier-né, au verset 32, son chant de reconnaissance, eh bien, c'est « L'Éternel a vu mon humiliation ». Ruben, l'Éternel a vu. L'Éternel a vu. Ça serait intéressant que dans nos maisons, on puisse marquer, je ne sais pas comment vous faites, si vous avez des... Des fois, quand je vis une grâce de Dieu particulière, je vais dans mon pied de mon lit ou dans mon bureau, et puis je remercie Dieu. Il y a ça, Seigneur, tu as fait ça. Tu es intervenu. Et bien pour Léa, c'est l'Éternel a vu mon humiliation. Pour son deuxième fils, donc deuxième naissance qui est là, elle vit une révélation de Dieu. L'Éternel a entendu. J'ai un Dieu qui entend, j'ai un Dieu qui m'a entendu. Alors que les dieux familiaux, ben c'est des statues, ça bouge pas, ça m'entend pas, ça vit pas. Mais l'Éternel, le Dieu vivant, m'a vu. Siméon, Lévi, et on sait ce que ça va donner, les Lévites, toute cette génération, ce clan des Lévites qui va être utilisé par Dieu pour le service du culte. Pour le troisième fils, Lévi, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Je lui ai donné trois fils. Enfin, il va m'aimer, j'espère. Troisième fils, et la valeur des fils, à l'époque, elle était très marquée dans cette époque-là. Quatrième fils, et pas des moindres, le père du Messie, l'ancêtre du Messie, Judas. Cette fois-ci, je célébrerai l'Éternel. Quatrième fils, pas une fille, pas autre chose, mais cette fois-ci, je célébrerai l'Éternel. Le quatrième fils. Le cinquième, Alors, il y a Issachar, puis après il y a Zabulon, etc. Vous pourrez regarder le texte. Mais Issachar, c'est intéressant, c'est « Dieu m'a donné mon salaire. » Le manque, le vide que j'avais là, l'être mal aimé que je suis, est maintenant comblé dans cette grossesse, dans cette naissance. Dieu se révèle à moi comme Dieu qui est ma récompense, mon salaire. Mon salaire. À chaque fois, elle attribue à Dieu une grâce particulière. Moi, j'aime bien Judas. Voilà, c'est la louange. C'est l'ancêtre de Jésus-Christ. Marie, Joseph seront descendants de Judas. Donc, de la lignée de Judas. Et quelle grâce pour Léa. Je ne sais pas si elle a eu connaissance qu'un jour, un de ses... comment on dit ? Non, le contraire de l'ancêtre. La descendance, ouais, les petits-petits-enfants, petits-petits-petits-petits-enfants, eh bien, ça serait Jésus-Christ. Je ne sais pas si elle a les connaissances, peut-être, on ne sait pas, le texte biblique ne le dit pas. Peut-être elle était un peu prophète, on ne sait pas. Mais en tout, Léa a eu 6 garçons, une fille aussi, elle adopte 2 autres garçons par sa servante. Dans toutes ses naissances, Léa montre qu'elle s'appuie sur Dieu. La mal-aimée, la délaissée. C'est Ésaïe qui appelle Jérusalem la délaissée. Ne crains pas de délaisser, toi qui es abandonné, ta terre aura un époux. Il annonce Jésus-Christ, la venue du Messie, ta terre aura un époux. Est-ce que ce soit peut-être homme ou femme, hein, vous mettez pas que Léa ou que les femmes ou que les hommes là, mais tous, est-ce que ce soir on peut dire Jésus-Christ est celui qui guérit mon cœur, mon âme? Les hommes, nous nous exprimons peu sur les blessures, ou pas souvent, peut-être sur ce qu'on a vécu, mais ça peut nous concerner aussi. Elle place en Dieu sa confiance. Elle reçoit dans son âme un apaisement et une guérison. Notre parcours de vie peut ressembler à celui de Léa. Épreuves, tourments. Peut-être les plus jeunes, vous avez moins d'épreuves et de tourments ou de drames, et on vous le souhaite. Mais dans la vie, ça existe, bien sûr, c'est là. Et il nous faut faire face à cela. Peut-être alors que je parle, il y a des choses qui vous reviennent dans vos pensées, des choses qui étaient oubliées. Je pensais que c'était oublié. Alors on a espoir. Plus qu'espoir, on a une espérance. C'est celle qui est en Jésus-Christ. Et merci Élisabeth, parce que tu l'as cité tout à l'heure. Ésaïe 61 nous montre ce pourquoi Jésus est venu. Il est certes venu pour mourir pour nos péchés. Il a payé le prix à la croix. Il nous a donné sa vie. Et il est venu pour le pardon, alors que nous voulons à lui humble et repentant. Mais il est aussi venu pour être le consolateur de nos âmes. Celui qui guérit les blessures. Si nous avons été Léa à un moment donné de notre parcours de vie, il s'intéresse à nos vies. Il s'intéresse profondément dans nos cœurs. Dans Luc 4, chapitre 18, donc nous lisons ces versets que Jésus s'approprie du prophète Ésaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Elle est belle cette promesse. « Je suis envoyé, dit Jésus, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Le salut implique la vie éternelle, le salut implique une vie avec Dieu pour toujours, un statut d'enfant de Dieu, etc. Mais il permet aussi à nos âmes d'être guéries et rétablies. Et ça, c'est la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Et on peut venir à lui ce soir, on peut venir à la croix, venir à la personne de Jésus-Christ et lui apporter dans nos âmes ce qui nous fait encore souffrir. Et il s'y intéresse. Ne croyons pas qu'il ne s'y intéresse pas. Alors je vais faire ce soir un appel en son nom, si vous le permettez, grâce à Léa et à son parcours de vie. Il y a une guérison et un soulagement dans la présence de Dieu. David dit « Il restaure mon âme ». La femme qui avait une perte de sang, des hémorragies, qui était mise de côté, l'insignifiante, elle a été guérie et Jésus l'a considérée. « Ma fille, ta foi t'a guéri, t'a sauvé. » Si tu viens ce soir au Seigneur Jésus-Christ, il y a peut-être une peine dans ton cœur, apporte-la lui. Si tu as été l'insignifiant, celui qui était transparent, si tu as une blessure en ton âme, s'il y a des drames que tu as pu voir, subir ou commettre, je ne parle pas seulement des victimes, mais il y a aussi l'autre aspect, hein, on sait bien que si nous sommes blessés, on a des fois tendance à tourmenter les autres, eh bien nous pouvons trouver apaisement, grâce, pardon, bénédiction auprès de Jésus-Christ. Il y a des choses qui peuvent peser lourd dans les familles, les secrets de famille. Apportons cela au Seigneur. Il y a les actes violents, les paroles violentes, les actes des parents ou les paroles des parents qui n'ont pas fait attention. L'enfant qui a subi cela et les parents qui pensaient que c'était, voilà, que c'était pas grand-chose. Tout cela cause tous les drames peuvent causer des traumatismes. Il y a les accidents de parcours, etc. Ce que vous avez subi, nous pouvons ce soir l'apporter au Seigneur Jésus-Christ. Il se nomme lui-même Consolateur. Je vous enverrai le Consolateur, un autre Consolateur que moi. Je vous enverrai le Défenseur, celui qui prendra votre défense. Un conjoint, une conjointe qui a abusé, des parents, bien sûr, sans jeter la pierre, on n'est pas là pour juger ni condamner, mais on peut venir au Seigneur Jésus-Christ. Paul, qui venait de subir des moments difficiles, écrit dans 2 Corinthiens 1 que nous avons part aux souffrances, mais nous avons part aussi au réconfort. Et il appelle Dieu le Dieu de toute consolation. Verset 3, 2 Corinthiens 1, verset 3. Il est le Dieu de tout réconfort. Ça veut dire de tout réconfort. Et il n'y a pas un qui ne puisse échapper à son réconfort. Et Paul écrit aussi dans Colossiens 2, verset 10, « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Maintenant, il y a un domaine aussi qu'on parle peu dans la vie chrétienne. C'est celui du fait d'être engagé au Seigneur, d'être dans un service, et puis parfois on a des douleurs, des peines dans ce service ou dans le ministère exercé. Et on pensait peut-être que l'engagement dans un service ou dans l'expression d'un don nous garantissait d'être sans peine et sans douleur. Mais la Bible ne parle pas de ça. Mais parfois, on ne sait pas quoi faire avec. « Seigneur, je t'ai servi, puis voilà qu'il y a ça qui me tombe dessus. » Peut-être que ça vous est arrivé. Peut-être que ce n'est pas reconnu à sa juste valeur. Peut-être que dans la communauté chrétienne, là où il va y avoir consolation et encouragement, ça n'a pas répondu à vos attentes. Apportons cela à Jésus-Christ. Il est le chef de l'Église. Il est votre Seigneur, notre Seigneur et le bon berger. Et ce soir, je crois que le Saint-Esprit est là pour apaiser, pour soulager. Ésaïe, chapitre 10, verset 27, nous dit que l'abondance, quand il y aura les temps d'abondance, le joug sera brisé. Quand l'onction va de nouveau couler, c'est l'abondance dans l'Ancien Testament, c'est l'image de la bénédiction abondante, la fin de l'esclavage, la fin du tourment, eh bien le Saint-Esprit va libérer les jougs, la pièce de bois qui est lourde et qui est pénible à porter. Alors ce soir, je vous invite simplement à venir. Merci Manu d'aller à la louange. Et je vous invite à vous laisser rejoindre par le Saint-Esprit. Je ne guéris pas, personne ne guérit, Dieu guérit. Il peut nous utiliser pour la guérison, bien entendu. Mais j'aimerais vous inviter simplement, seul à seul avec votre Seigneur, à venir à lui si vous le désirez et à le laisser vous rejoindre.